Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. On va bien sûr longuement revenir sur ces résultats du second tour de la présidentielle avec vous Amandine Bégaud. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal et bonjour à tous. À la une, bien sûr, Emmanuel Macron réélu avec un peu plus de 58% des voix. La victoire est nette. Le président a passé la nuit à la lanterne. Nous irons sur place dans un instant. Dans ce journal également, la police des polices saisie après la mort de deux occupants d'une voiture sur le pont Neuf à Paris. Voiture qui a visiblement tenté de foncer sur des policiers. Et puis on ira à Évry où s'ouvre tout à l'heure le procès de la catastrophe de Brétigny.
À 12h40, analyse des résultats dans le détail. Qui a voté et pour qui. À 12h50, la bataille des législatives, elle a débuté hier soir.
Notre question du jour sur RTL, législative justement, irez-vous voter? Eh bien vous dites oui, massivement, à 84%. Notre météo, c'est avec vous Louis Baudin, bonjour Louis.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Pas facile de donner une tendance générale.
Non,
hein.
Pas facile parce qu'on va vers le mieux, mais il y a encore des averses, hein, notamment dans le centre, là, du Poitou, au nord du Massif central, en passant par le centre, la Bourgogne, remontant vers l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté ou encore la région Rhône-Alpes, là ça restera nuageux avec quelques averses tout au long de l'après-midi. Midi, parfois accompagné d'orages et puis un petit peu de neige encore dans les Alpes du Nord à partir de 1800 mètres. Alors de part et d'autre de cette limite, on va avoir un peu plus d'éclaircies, notamment au nord de la Loire, près de la frontière belge, même si là aussi on notera quelques averses possibles, hein, notamment sur le Nord-Pas-de-Calais. Puis dans le sud, là ça ira franchement mieux, de l'Aquitaine à la Méditerranée. Fini les pluies, retour du soleil. Le tout avec des températures en légère baisse dans la moitié nord, hein, pas plus de 13 à 16 degrés. Et puis dans le sud, 18 à 21, là ça remonte.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, on vous emmène dans le Grand Est. Dis-moi où tu vis, je te dirai comment tu as voté hier. Voilà peut-être comment on pourrait résumer les résultats de ce second tour de la présidentielle. Samuel Goldschmidt et Yannick Collant, vous êtes les correspondants de RTL dans la région. Bonjour à tous les deux. Chez vous comme ailleurs, la frontière est assez nette. Hein. D'un côté, la France des villes, de l'autre, celle des campagnes.
Et oui, bienvenue à Aubernais en Alsace, 11 000 habitants au pied du Mont-Saint-Odile. On est à 30 km de Strasbourg, très belle ville avec des maisons à colombage sur la route des vins d'Alsace. Et c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour avec 61% des voix. Une évidence pour les électeurs comme Isabelle, pour qui le discours de Marine Le Pen ne passe pas.
Ben pourquoi on voterait Le Pen? On n'y est pas confronté à ce qu'elle nous dit. Par contre, peut-être que dans les campagnes, eux, ils le sentent, ils le voient, alors que nous, c'est pas concret, c'est pas palpable.
Et bien justement ici à Voix-de-Vacon dans la Meuse, on est le long de la Nationale 4 entre Nancy et Paris, Voix-de-Vacon, 1630 habitants. Marine Le Pen, 61,52% hier avec 19% d'abstention et presque 44 bulletins blancs. Corinne Kaufmann habite à Voix. D'ailleurs, elle est ancienne conseillère régionale Rassemblement National.
La ruralité vaut de plus en plus Marine, donc c'est les grandes villes qui ont fait qu'elle n'est pas passée. Là, ça va être les ruraux contre les citadins.
Les ruraux contre les citadins, il y a aussi une France qui vit bien et une autre moins bien.
Et oui, puisque ici à Aubernais, nous sommes dans la campagne alsacienne, mais dans une zone très attractive qui gagne des habitants. Chloé Steller travaille dans une agence immobilière de la ville.
C'est le bon compromis entre la campagne et la ville parce que vous avez tous les commodités, vous êtes proche de Strasbourg, vous avez le train qui dessert Colmar, Strasbourg. Il y a très très peu de chômage sur le secteur, on a énormément d'industrie, donc pas de problème à ce niveau-là non plus.
Et le ressenti est très différent à Voix-de-Vacon, qui n'est pas dans une zone d'influence ou d'attractivité urbaine. Nancy, par exemple, est à 46 km. Et cet habitant fait un diagnostic qui est connu d'ailleurs sur les causes de ce vote.
Parce que les gens en ont marre. Hein. On subit les augmentations, on avait une perception, elle est partie. On avait la poste, maintenant, c'est fermé 3 jours dans la semaine. Alors après, voilà, oui. Il faut toujours se déplacer. Et si et ça, et si et ça. Alors là, moi, à un moment donné, je laisse tout tomber.
Et on ne soupçonne pas le poids de la dématérialisation des démarches. Carte grise, carte d'identité, sécu, mutuelle, impôts, tout se fait par ordinateur. Et c'est un cauchemar pour notamment les populations âgées, isolées, qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Ce désengagement invisible pèse aussi très lourd.
Le vote dans le Grand Est avec vous, Samuel Goldschmidt et Yannick Collant. Merci beaucoup à tous les deux.
Des résultats qu'Emmanuel Macron est sans doute en train d'observer à la loupe.
Le président réélu est toujours à la lanterne où il a passé la nuit. Vincent Derosier, vous êtes sur place pour RTL.
Absolument, et vous avez raison. Emmanuel Macron analyse les résultats pour surtout en tirer des enseignements au plus vite, parce qu'il va devoir nommer, vous le savez, un Premier ministre assez vite. Son profil en dira beaucoup sur l'orientation politique qu'il souhaite donner au premier mois de son nouveau quinquennat. Alors pour ça, il a choisi de se mettre au vert. Vous le disiez, à la Lanterne, c'est la résidence secondaire des chefs d'État qui se trouve à deux pas du château de Versailles. François Hollande, pour l'anecdote, n'aimait pas du tout la Lanterne. Emmanuel Macron, lui, aime y travailler, s'y reposer aussi, et selon l'un de ses soutiens, il aime prendre le temps de réfléchir à la suite dans cette résidence entourée de verdure et loin du brouhaha de l'Élysée. La matinée, selon un de ses proche a été consacré d'abord à répondre aux nombreux coups de fil de félicitations qui sont venus du monde entier. Rien n'empêche Emmanuel Macron de rester ici, puisque techniquement la Lanterne c'est un peu un palais de l'Élysée bis, parfaitement équipé et sécurisé, mais selon un fidèle du chef de l'État, il devrait rejoindre le palais de l'Élysée avant la nuit.
Vincent Derosier en direct de la Lanterne, et vous évoquiez à l'instant ces messages de félicitations reçus dans le monde entier, du monde entier. Le président russe Vladimir Poutine a adressé notamment ses félicitations. Il lui souhaite du succès pour son nouveau mandat en dépit des vives tensions liées à l'Ukraine. Le message forcément n'est pas anodin. Alors même si l'écart s'est resserré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen par rapport à 2017, cette victoire du président sortant est très nette, hein, un peu plus de 58% des voix, plus 10 points d'écart avec Marine Le Pen, qui progresse toutefois partout ou presque. Illustration à Prades, chez Jean Castex, où elle est même arrivée devant avec 51,3% des voix. Patrick Tégéraud.
Oui, cela fait 10 points de plus qu'en 2017. Pourtant, Prades n'a rien perdu de son charme ou de sa quiétude. De la vie même des Pradois, il ne s'est rien passé de particulier ces 5 dernières années ici, si ce n'est le quinquennat Macron. Alors Véronique a voté Le Pen aux deux tours.
Mais moi je pense que les gens ils ont un peu le ras-le-bol, qu'il y ait plus d'avantages pour certaines personnes et d'autres non, puis voter le changement aussi.
À l'opposé absolu de Véronique, Rolande est très émue ce matin.
Ça me désole, parce qu'elle est d'extrême droite et que moi je suis vieille et que j'ai déjà vécu le fascisme et tous ses effets répugnants.
Elle a donc fait de son bulletin un morceau de front républicain en votant Macron.
C'est un type intelligent et qui n'est pas fasciste.
Éric, lui, a voté blanc, mais il sait faire la différence entre le président Macron et son premier ministre Castex.
Il est aimé ici. Vous l'avez tous les samedis matin, quand il y a le marché des producteurs, il est là, il est ouvert à toute discussion.
Donc ce n'est pas un indicateur de l'avenir politique de Jean Castex, le résultat des présidentielles.
Non.
Jean Castex sera donc le bienvenu à Prades, en particulier dans le superbe hôtel de ville où son ancien premier adjoint joue les intérimaires, en espérant que ça dure le moins longtemps possible.
À Prades, le reportage de Patrick Tégéraud pour RTL. Cap à présent sur les législatives. Marine Le Pen a d'ailleurs donné le ton dès hier. Et deux réunions prévues dès aujourd'hui pour le Rassemblement National. Marie Mollet.
Oui, le RN avait obtenu 8 députés il y a 5 ans. Cette fois, l'objectif, c'est au moins d'en avoir le double pour former un groupe à l'Assemblée. C'est ce qu'il faut pour avoir du temps de parole et exister dans l'hémicycle. Pour y arriver, les cadres du RN misent tout sur les circonscriptions rurales. Mais pas question d'accord d'appareil avec le parti d'Éric Zemmour. Avec un score à 7%, ils peuvent bien se soumettre, lâchait un conseiller hier soir. En revanche, il pourrait y avoir des ouvertures ici ou là avec quelques personnalités autour d'Éric Zemmour. Des noms comme ceux de Stanislas Rigaud ou Guillaume Pelletier circulent depuis des semaines.
Et Marine Le Pen, dans tout ça, pas de retraite, pas question de s'arrêter ?
Oui, exactement. Marine Le Pen voudrait repartir pour un nouveau mandat de députée. Sauf surprise, elle sera bien candidate à sa réélection dans sa circonscription du Pas-de-Calais. En revanche, elle devrait laisser les rênes du parti à son dauphin Jordan Bardella. C'est bon, elle a suffisamment mis les mains dans le cambouis, dit un élu. Reste la grande inconnue. Sera-t-elle candidate pour une 4e élection présidentielle ? Question taboue au RN. Un cadre le garantit. Sujet interdit. Elle n'en parle jamais.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Des législatives au menu des discussions également à gauche aujourd'hui.
Rencontre entre la France insoumise et les communistes à droite. Aurélien Pradier, le secrétaire national des Républicains, a ouvertement écarté toute alliance. C'était ce matin sur RTL.
Ce n'est pas le moment de se vendre. On n'est pas à la foire aux veaux où les uns et les autres doivent se demander s'ils auront demain un gyrophare sur la voiture. Moi, je me suis engagé pour des convictions, pour des valeurs auxquelles je crois. Et je pense que demain, les Français auront besoin à l'Assemblée nationale, non pas de députés qui se sont bradés aux uns et aux autres, mais de députés libres et indépendants. Je ne suis pas en train de défendre la boutique Les Républicains. Je ne suis pas en train de défendre mon poste. Le projet de société qu'Emmanuel Macron a porté pendant 5 ans, ce n'est pas le mien. J'ai quand même le droit de considérer que ce n'est pas le projet auquel je crois. C'est un projet dur, socialement méprisant, je n'y crois pas.
Aurélien Pardier sur RTL ce matin avec Yves Calvi et Abba Ventura. Et puis parmi les images marquantes de ce second tour, il y a l'attitude de Jean Lassalle qui, hier, face à l'urne, a finalement renoncé à glisser son enveloppe, manière d'afficher ouvertement son abstention. Un incident majeur, dit la Commission nationale de contrôle de la campagne. Elle annonce, et c'est une info RTL, avoir saisi le Conseil constitutionnel.
Les GPN, la police des polices, elle a ouvert une enquête après la mort hier de 2 personnes sur le Pont Neuf à Paris.
Le conducteur et le passager d'une voiture soupçonnés d'avoir foncé sur des policiers. Guillaume Chiez, on en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé hier soir. Il était environ 23h45.
Oui, et selon le rapport des policiers que nous avons pu consulter, les 5 fonctionnaires ont décidé de contrôler ce véhicule qui est stationné en sens inverse au niveau du quai des Orfèvres. Ils l'observent depuis un moment et soupçonnent ses occupants de se livrer à un trafic de stupéfiants. Les policiers encerclent la voiture. L'un d'eux se met à l'avant. Et c'est à ce moment-là que le conducteur démarre. Le fonctionnaire a tout juste le temps de s'écarter pour ne pas être renversé. Au même moment, un de ses collègues ouvre le feu sur le véhicule, tire une dizaine de cartouches avec son fusil mitrailleur. Le conducteur et le passager avant sont tués. Celui qui se trouvait à l'arrière a reçu une balle dans le bras droit. Ses jours ne sont plus en danger. Il n'est pas connu des services de police. En revanche, les 2 personnes décédées, âgées de 25 et 31 ans, étaient très défavorablement connues, notamment pour trafic de stupéfiants. L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête. Les policiers auditionnés mettent tous en avant la légitime défense. Une version confirmée à ce stade par un chauffeur de taxi qui avait assisté à toute la scène.
Guillaume Chiez, du service police-justice de RTL. Le début également aujourd'hui du procès de la catastrophe de Brétigny, l'une des pires catastrophes ferroviaires survenues en France. 7 morts, 144 blessés, c'était le 12 juillet 2013. Vincent a perdu ce jour-là sa compagne Morgane, 26 ans.
Le fait d'être d'un seul coup projeté comme une brindille à l'intérieur de ce wagon là qui se retourne sur le côté, le bruit incroyable que ça pouvait produire, le ballast qui rentre par les fenêtres, le wagon était plein de poussière. J'ai perdu connaissance et j'ai perdu contact avec Morgane. Il m'a fallu attendre plus d'un jour et demi pour avoir la confirmation de son décès. J'attends que la culpabilité de la SNCF soit reconnue, qu'on ait une vision claire des responsabilités. Mais est-ce que le procès permettra de le faire? J'en doute un petit peu. Il y a tellement d'acteurs qui sont impliqués. C'est une série d'erreurs, d'incompétences.
Vincent, partie civile donc dans ce procès. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli pour RTL ce témoignage. On vous retrouve en direct devant le tribunal d'Evry où le procès donc s'ouvre dans moins d'une heure maintenant. Quel est l'enjeu ?
Eh bien, vous l'avez entendu dans la voix de Vincent, justement, les victimes veulent savoir qui sont les responsables, tous les responsables, ceux qui n'ont pas agi pour empêcher, pour prévenir ce déraillement mortel. Pour les parties civiles, pas de doute, la dégradation des voies était ancienne, devenue dangereuse à cause d'une série de négligences et d'erreurs connues de toute la chaîne de commandement SNCF à Brétigny-sur-Orge et peut-être au-delà. Pourtant, c'est un seul homme, un cheminot, qui est renvoyé devant le tribunal. Il est le dernier à avoir contrôlé les rails avant la catastrophe. L'entreprise SNCF est certes jugée, elle aussi, mais en tant que personne morale, aucun directeur n'est visé nommément. Insuffisant, décevant pour les victimes. Si la vérité n'éclate pas au procès, elles témoigneront au moins en mémoire de ceux qui sont morts ce jour-là. Et pour que cela ne se reproduise plus jamais, la SNCF, contactée par RTL, ne souhaite pas s'exprimer avant l'audience, mais réaffirme que la faille sur les rails était indétectable, qu'il n'y a eu aucun problème de maintenance.
Alice Moreno, en direct du tribunal d'Evry pour RTL. Un petit mot de cyclisme et Romain Bardet appelle ce matin les coureurs au respect et à réfléchir sur leurs responsabilités communes après la grave chute, survenue hier dans le Liège-Bastogne-Liège. Le double champion du monde Julien Alaphilippe a été grièvement blessé à une fracture à l'omoplate et un pneumothorax. Il est toujours à l'hôpital.
Dans une seconde, les résultats dans le détail. Qui a voté pour qui ?
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
contente, mais assez mitigée, parce qu'il y a quand même un énorme score pour Marine Le Pen et il y a une grande division, une grande fracture.
Ambiance mitigée, vous venez de l'entendre hier soir au Champ de Mars. Les soutiens d'Emmanuel Macron ont bien conscience des enjeux, des défis après les résultats de ce second tour. Alors, qui a voté? Pour qui est-on vraiment face à deux France irréconciliables, hein, comme on l'entend souvent? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Bonjour Benjamin.
Bonjour Amandine. Bonjour
et Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. Bonjour Jean-Daniel.
Bonjour Amandine.
Emmanuel Macron l'emporte donc avec un peu plus de 58% des voix, selon les tout derniers résultats. La victoire est nette et pourtant, depuis hier, on en entend certains qui disent que c'est le président le plus mal élu de cette 5e République. C'est vrai ou c'est faux?
C'est presque vrai.
Ah.
C'est presque faux.
Donc,
ça commence bien, cette affaire. Vous voulez éclairer un peu les choses?
C'est faux. C'est faux parce qu'en fait, quand on regarde, si on se base sur l'ensemble du corps électoral, et c'est comme ça probablement que Jean-Luc Mélenchon a fait son calcul, c'est Georges Pompidou en fait qui est en proportion élu un peu moins bien que ne peut l'être Emmanuel Macron. Ça se joue à pas grand-chose, mais...
En fait, c'est le paramètre des inscrits qui fait qu'on dit bien élu ou mal élu.
C'est ça.
Georges Pompidou, c'est 37,51% des inscrits en 69, et Emmanuel Macron hier, c'est 38,52% des inscrits. Mais Jacques Chirac, c'est 39,43%.
Oui, non, bien sûr. Non, puis, et après, on peut voir qu'il y a aussi le débat qui peut toucher, en dehors de l'élection présidentielle, les candidats aux élections municipales, les dernières départementales ou régionales, voire les législatives, avec des taux de participation qui peuvent être faibles et qui peuvent amener aussi une interrogation entre guillemets sur ce principe-là de la légitimité des élus. Peut-être que un autre type de regard que l'on peut avoir, c'est sur l'élection de 1974, où là, pour le coup, l'écart entre le premier et le deuxième a été des plus faibles, et on se rappelle qu'à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing a réuni 50,8% des suffrages au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Alors, quand on regarde le détail des résultats d'hier, est-ce qu'on est vraiment face à deux France ?
On est face, on peut dire de manière un peu caricaturale, deux France. D'un côté, une France qui est un peu plus féminine, qui a eu tendance à voter pour Marine Le Pen. Une France un peu plus masculine, qui a eu tendance à voter pour Emmanuel Macron. Une France qui est, d'un point de vue générationnel, des deux côtés des âges. C'est-à-dire, d'un côté, les plus jeunes et les plus âgés qui ont voté en faveur d'Emmanuel Macron, et les âges intermédiaires qui ont plus voté en faveur de Marine Le Pen. Ce qui vient recouper un deuxième aspect, c'est que ceux qui sont pleins dans la vie active ont plutôt eu tendance à voter en faveur de Marine Le Pen qu'en faveur d'Emmanuel Macron. Et une répartition géographique également que l'on voit de manière un peu caricaturale entre un nord-est de la France qui a voté plutôt en faveur de Marine Le Pen et un sud-ouest qui a voté plutôt en faveur d'Emmanuel Macron.
Et le face-à-face ville-campagne qu'on constatait tout à l'heure dans le Grand Est, il réapparaît aussi.
Il existe également par ailleurs, oui.
Et il y a cette idée que la France qui va bien, la France des élites, la France qui n'est pas au chômage, la France qui est contente, a plutôt voté Macron, et que la France qui va mal, la France qui a des difficultés économiques, sociales, culturelles, a plutôt voté Marine Le Pen. Est-ce une réalité ?
Alors, c'est une réalité, et elle est renforcée par un deuxième aspect qui est la perception de la maîtrise que l'on peut avoir de sa vie. En gros, est-ce que globalement, j'ai la capacité, si jamais je veux déménager, de pouvoir partir de chez moi assez facilement ? Est-ce que j'ai la possibilité, si jamais je ne me sens pas bien dans mon activité professionnelle, de quitter mon activité professionnelle pour pouvoir en trouver une autre ? Est-ce que j'ai la capacité...
Et donc là, on est plutôt Macron.
Et là, donc en fait, en gros, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont le sentiment qu'ils ont la maîtrise de leur vie. C'est-à-dire que quand ils choisissent de faire quelque chose, de changer de lieu de résidence, d'activité professionnelle, de se projeter vers l'avenir, etc., ont plutôt tendance à voter pour Emmanuel Macron, alors que ceux qui sont plutôt, entre guillemets, assignés à leur territoire, et j'utilise volontairement ce terme-là parce qu'il avait été utilisé par Emmanuel Macron en 2017, ceux-là ont plutôt tendance à voter en faveur de Marine Le Pen.
Benjamin, quand Emmanuel Macron a pris la parole hier soir, il a dit « ce vote m'oblige », j'y pensais à ceux qui ont voté pour lui, pour ne pas voter Marine Le Pen, pour faire barrage à Marine Le Pen, à ceux aussi qui avaient voté Marine Le Pen pour d'autres raisons. C'est compliqué quand même ce lendemain de victoire.
Ah ben oui, c'est sûr que ça va pas être un long fleuve tranquille. Hein. Il a promis hier une méthode refondée, comme il dit, pour gouverner la France. Il a dit que nul ne serait laissé au bord du chemin, parce que il l'a dit aussi très clairement que il sait qu'il a profité d'un barrage républicain, d'un front républicain, et que beaucoup ont voté pour lui, pas par adhésion, mais pour faire barrage à Marine Le Pen.
On sait combien, Jean-Daniel ?
Par exemple, il y a 38% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont allés voter pour lui. C'était un peu plus que ce qui avait été estimé dans les sondages.
Oui, c'est ça. Et quand on regarde auprès de l'ensemble de la population, c'est quasiment 50-50. Hein. 50% qui déclare déclarent qu'ils ont voté pour lui, 50% qui déclarent qu'ils ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen.
Donc oui, il va falloir unir beaucoup plus, et c'est pour ça aussi qu'il est davantage dans la concertation. En tous les cas, c'est ce qu'on nous avance, c'est-à-dire que maintenant, les grandes réformes, il ne faudra pas que ça soit fait de manière verticale. Beaucoup moins que pendant le premier quinquennat sur la réforme des retraites, il ne pourra pas passer au bulldozer. Et donc on voit très bien que la méthode adoptée, c'est celle de la concertation. Sera-t-elle réelle ?
Oui, est-ce que c'est
ou
affiché
uniquement
ou...
un affichage ? Les faits nous le diront, Amandine. Mais pour l'instant, c'est en tout cas la manière dont il veut être plus mitterrandien, on va dire, dans ce deuxième quinquennat. On voit bien que le slogan qu'il a repris, c'est celui de François Mitterrand, de la France unie.
Est-ce qu'on arrive à projeter ces chiffres présidentiels en chiffres législatifs?
Eh bien, ça, on le fera juste après la pause, parce que c'est le deuxième débat.
Exactement, et c'est pour ça que je voulais vous en parler dès maintenant et vous l'annoncer. Merci. Vous étiez là dès 5h du matin, monsieur Lévy.
Je crois bien que
vous voulez un petit café, je vous entends depuis ce matin. Tout va bien?
Et tout va bien, merci.
Bon, en même temps, vous travaillez qu'une fois pas tous les 5 ans. C'est comme Benjamin Sportouche.
C'est ça.
Donc ça va. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap.
Nous avons des raisons d'espérer. Le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler.
La partie n'est pas tout à fait jouée. Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
De Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, en passant, vous venez de l'entendre, par Marine Le Pen. Le top départ a donc été donné dès hier soir, dès l'annonce des résultats. Tous les perdants de cette présidentielle ont mis le cap sur les législatives. Alors est-ce vraiment un troisième tour? Faut-il s'attendre à une cohabitation, comme le souhaite une majorité de Français? C'est donc notre deuxième débat. Nous sommes toujours avec Jean-Daniel Lévy et Benjamin Sportouche. Jean-Daniel, je reprends la question tout à l'heure, juste avant la pause, de Pascal, qui était remarquable, comme toujours, Pascal. Est-ce que les résultats de cette présidentielle peuvent valoir de projection pour le second tour? Est-ce qu'une Marine Le Pen qui a fait un peu plus de 40% des voix peut faire 40% des voix aux législatives? C'est pas aussi simple.
Non, c'est pas aussi simple. Et puis déjà, on préfère en général comparer le premier tour au premier tour, hein, parce que c'est le moment où l'offre électorale est la plus éclatée. Si vous prenez les dernières élections législatives, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On se rappelle, Marine Le Pen avait réuni un peu plus de 21% des suffrages au premier tour des élections, de l'élection présidentielle. Aux élections législatives, elle, avec ses alliés, réunit moins de 15% des suffrages. On a eu le même principe avec, si vous regardez, Jean-Luc Mélenchon et par la suite, ce qui s'était passé avec sa force politique dans le cadre des élections législatives. Il avait perdu 6 à 7 points. Et en revanche, du côté d'Emmanuel Macron et de sa force politique, 24% au premier tour de l'élection présidentielle. Donc ça veut dire un Français sur 4, on devient et on passe à un Français sur 3 aux élections législatives. Il y a une deuxième composante, je pense, à avoir à l'esprit, qui est la question de la participation. Et on a eu un record absolu de participation au premier tour et au deuxième tour des dernières élections législatives. On a moins d'un Français sur deux qui a participé au premier tour des élections législatives, moins de 43% au deuxième tour.
Mais c'est un indicateur, par exemple, dans les grandes villes. Je voyais Paris. Paris, 85% des gens ont voté pour Emmanuel Macron et 15% pour Marine Le Pen. Ça veut dire qu'a priori, il n'y aura pas de députés Rassemblement National à Paris dans un scrutin majoritaire à deux tours.
Oui, a priori. C'est, voilà, c'est même quasiment certain.
Voilà, et c'est une indication.
Et même indépendamment de ce score d'hier, d'une manière générale, la possibilité du Rassemblement National d'avoir un élu à Paris constitue une difficulté, à mon avis.
Benjamin, on a vu ce jeu, ces appels d'alliance. Alors, c'était déjà depuis plusieurs jours autour de Jean-Luc Mélenchon. Là, d'abord autour de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Une alliance Le Pen-Zemmour, c'est crédible, possible ?
Franchement, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que Marine Le Pen, si vous voulez, là, elle a quand même un score assez confortable de 41%. Elle a gagné 8 points, ce n'est pas rien. J'ai envie de vous dire, c'est pas du tout une naufragée du scrutin. Emmanuel Macron, c'est un peu un miraculé quand même au regard de tout ce qu'il a vécu, mais elle n'est pas naufragée. Elle a quand même un score confortable, donc elle veut l'imposer à Éric Zemmour. Elle ne va pas lui dérouler le tapis rouge. Donc, ce qu'elle veut là, c'est prendre la main sur les investitures et estimer, en gros, qu'il fasse allégeance. C'est un peu ce qu'on a entendu. Donc, lui, encore faut-il qu'il accepte. Donc, j'attends de voir s'ils arrivent, en effet, à faire des députés uniques dans chacune des 577 circonscriptions. Ce n'est pas gagné.
Et autour de la France insoumise, ça c'est...
Alors, ça c'est, disons que c'est plus entamé. Il y a encore des négociations ce matin qui ont eu lieu en bilatéral, parce que vous savez que Jean-Luc Mélenchon, en fait, fait en sorte qu'il y ait des pourparlers one-to-one. Hein,
il n'a pas mis tout le monde autour de la table.
Il n'a pas mis tout le monde autour de la table. Donc comme ça, il est... C'est toujours mieux de diviser pour mieux régner, on le sait. Et donc, on verra. Mais c'est plutôt bien engagé avec les communistes
Et avec une partie des Verts, ça sera un peu plus compliqué. Les socialistes, ça vraiment, ça reste
ça va être un des enjeux de savoir si Reconquête va s'allier évidemment au Rassemblement national. Et je lisais une indiscrétion, l'entourage d'Éric Zemmour a commencé à se pencher sur cette carte électorale. Oui. Seule Marine Le Pen arrive en tête dans 179 circonscriptions. En cumulant son score avec celui de Reconquête, même s'il faut être prudent avec le premier tour de la présidentielle, le camp national arriverait en tête de 379 circonscriptions. Mais donc
mais
évidemment...
Oui, mais en tête, c'est pas pour ça qu'ils sont élus derrière.
La politique, c'est pas des mathématiques, c'est pas arithmétique.
C'est entendu.
Bien sûr.
Mais effectivement, avec ces chiffres du premier tour, Marine Le Pen plus Éric Zemmour dans chaque circonscription, ça va peut-être faire réfléchir les uns et les autres.
C'est pour ça qu'elle lance aussi vite la campagne des législatives. Ça, c'est quasiment jamais vu. On a déjà oublié presque le scrutin d'hier. Parce qu'elle se dit qu'elle va prospérer sur un élan. Elle ne veut pas qu'il retombe. Elle aurait pu se mettre au vert trois jours. Non, dès aujourd'hui, elle est au travail cet après-midi avec un bureau exécutif.
Dernière chose, il faut le dire pour nos auditeurs, le scrutin, il sera majoritaire à deux tours.
Bien sûr.
Il est impossible de changer la loi électorale à un mois et demi, deux mois des présidentielles.
Non,
c'est impossible.
C'est impossible. Il faudrait le faire pour les prochaines législatives.
Et ce ne sera pas avancé.
Alors ça, c'est ce
12
que,
et 19 juin.
Emmanuel Macron a dit il y a quelques semaines, le calendrier ne s'y prête pas et on va dire que je fais de la magouille. C'est vrai que ça serait perçu comme une magouille politique à si peu de temps de l'échéance et alors qu'on a une opposition qui se mobilise. Ça voudrait peut-être aussi être interprété comme une manière de vouloir leur couper l'herbe sous le pied. Donc je pense que c'est faisable, mais ce n'est pas le plus probable.
Dernière question, on a entendu ces derniers jours et ça se confirme
l'art
encore
de
aujourd'hui.
La nuance avec Benjamin Sportouche.
Avec plusieurs enquêtes, les Français qui ont une envie visiblement de cohabitation, en tout cas qui ne veulent pas donner la majorité à Emmanuel Macron. Ce serait surprenant, ça, Jean-Daniel Lévy ?
Mais c'était le cas déjà en 2017.
Il a eu une majorité absolue.
Il nous disait la même chose, c'est pas ce qui s'est produit. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient notre interrogation à l'égard d'Emmanuel Macron, qui n'était pas forcément le regard autoritaire aujourd'hui qu'il est accolé, mais qui était plutôt la dimension d'incompétence ou de doute. Plus il y avait une volonté de la part notamment des électeurs de droite de prendre leur revanche, la perception en tout cas dans un premier temps, qu'ils avaient perdu la présidentielle qui leur a été promise notamment du fait des affaires Fillon et qu'ils souhaitaient prendre leur revanche à travers les élections législatives.
Mais le désir de cohabitation, il rejoint le désir de proportionnel. C'est un peu la même volonté de voir un pouvoir qui se partagerait. Parce que si Marine Le Pen a 42% hier et qu'elle a 5 députés, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la démocratie.
Ça, c'est vrai.
Oui, sachant qu'il y a deux dimensions. Il y a le premier aspect, c'est objectivement, en général, les scores qui sont obtenus aux élections législatives de la part du Front National ou du Rassemblement National sont très en deçà de ce qu'ils obtenaient au cours de l'élection présidentielle. Donc, il y a moins d'électeurs. Et puis après, effectivement, un système aujourd'hui qui s'appelle le système majoritaire, qui fait qu'en fait, on privilégie pour faire vite la possibilité de pouvoir gouverner et d'avoir des groupes qui sont des groupes solides plutôt que la représentativité totale de la population française.
Vous restez avec nous, le scrutin majoritaire à deux tours. Vous restez avec nous parce qu'on peut en parler pendant des heures. Hein, proportionnel, le scrutin majoritaire à deux tours. Les deux ont des avantages. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui quand même que la proportionnelle est une nécessité.
Benjamin Sportouche. Emmanuel Macron a parlé de la proportionnelle intégrale. On l'avait jamais entendu dans sa bouche et ça a émergé.
Seule fois.
Alors qu'il n'a pas fait la dose de proportionnelle pendant le premier quinquennat.
Une seule fois, c'est arrivé.
Donc on va
en 86 avec François Mitterrand. Et il y avait 36. Du calcul politique, disons-le, à l'époque. Sûr. Il est 12h59, on revient à tout de suite.
RTL Midi.